Bonjour, vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Les podcasts du soir s'intéressent au quotidien et aux aspirations des futurs diplômés. Pendant une semaine, on va explorer toutes les facettes de leur vie. Aujourd'hui, focus sur le logement et la colocation. Mais d'abord, vous avez été nombreux à nous poser des questions sur nos pratiques dans le cadre des élections. On y répond dans un instant. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Dans le cadre de l'opération Pourquoi, Le Soir invite ses abonnés à poser des questions relatives aux élections. Les journalistes de la rédaction répondent à une question tous les jours jusqu'au 9 juin. Parmi les très nombreuses interrogations qui vous agitent, plusieurs concernent notre travail, notre traitement de cette actualité si particulière. Ces questions, on va y répondre dans ce podcast avec Christophe Berti, rédacteur en chef du Soir, et Bernard de Monti, le chef du pôle pouvoir.
Bonjour Christophe.
Bonjour Pierre.
Bonjour Bernard.
Bonjour Pierre.
Une question de Pierre de Liège pour commencer, je vous promets que ce n'est pas moi. Est-ce que Le Soir traite le PTB avec plus de suspicion que les partis traditionnels?
Je vais peut-être surprendre notre lecteur et nos lecteurs et lectrices en général, mais non, en fait, on ne traite pas le PTB de manière différente. On couvre l'actualité liée au PTB comme on le fait pour les autres partis. Alors, ce qui peut peut-être induire cette impression de biais, c'est que il arrive que le PTB soit davantage dans l'outrance ou qu'on doive faire un fact-checking un peu plus pointu sur une question ou l'autre. Par exemple, récemment, ils ont dit que Colruyt ne payait quasiment pas d'impôts des sociétés. C'était manifestement inexact. Et donc, avec les partis qui sont un peu plus dans l'outrance verbale ou dans les chiffres envoyés à l'emporte-pièce, on est plus tenté et plus enclin à faire de la vérification. Mais si le MR, le PS ou tout autre parti se comporte de la même façon, on le fera également.
Mais je voudrais juste ajouter qu'en fait, on nous fait généralement deux remarques contradictoires avec le PTB. C'est qu'on dit « vous le traitez comme un autre parti alors que ce n'est pas un autre parti » ou « vous ne le traitez pas comme un autre parti alors que c'est comme un autre parti ». Et je pense qu'en étant au milieu, en fait, c'est la bonne distance journalistique. Je voudrais juste ajouter qu'on fait au soir une distinction importante dans le cordon sanitaire et médiatique entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc l'extrême gauche, aujourd'hui, n'est pas concernée par le cordon sanitaire parce qu'il n'y a pas, dans les statuts du parti, dans son discours, un rejet de l'autre, un rejet de l'étranger. C'est important, en fait, d'ajouter ça. Et en outre, comme l'a dit Bernard, on doit s'intéresser au PTB parce que c'est sans doute dans les partis qui sont aujourd'hui représentés au Parlement, celui que les gens connaissent le moins, en fait, sur lequel on se pose le plus de questions sur sa provenance, la provenance de l'argent du PTB, sur la manière dont il peut travailler avec ses militants et aussi sur des soutiens éventuels qu'il pourrait avoir d'États étrangers. Donc on a déjà fait plusieurs enquêtes autour de ça et on le refera. Donc on a une suspicion qui n'est pas due au personnage du PTB et encore moins à ses électeurs. On a juste un questionnement journalistique qui me paraît important.
Laurent, qui habite à Chigny, lui se demande pourquoi on ne connaît pas les idées, voire les appartenances politiques des journalistes. On est tous des êtres humains, on a tous des opinions. Et est-ce que ces opinions n'influencent pas notre travail journalistique?
Alors, peut-être de manière inconsciente, mais on a plusieurs filtres au soir pour éviter ça. D'abord, je pense que la première qualité d'un journaliste, c'est d'être indépendant par rapport à ses propres opinions. Ce qui n'est pas facile, évidemment, comme vous l'avez dit, Pierre. On a tous des opinions, qu'elles soient politiques, culturelles, voire sportives, évidemment. Mais je pense que quand on arrive à la rédaction, on doit mettre son manteau et ses opinions au porte-manteau et faire notre travail. Alors, les filtres dont je parlais, c'est d'abord séparer le factuel du commentaire. Au soir, on fait de l'opinion. On a un édito, on est le seul journal belge à avoir un édito en première page. On fait des commentaires très régulièrement, mais on sépare dans le travail journalistique et dans la manière dont on le montre à nos lecteurs, ce factuel et ce commentaire. Et puis Bernard pourra en parler mieux de moi, mais il y a un travail collectif aussi autour des articles.
Effectivement, donc on se relie aussi beaucoup entre nous. C'est une belle garantie d'indépendance politique, c'est d'avoir le peer review, pour reprendre un anglicisme, c'est-à-dire qu'on se relie entre journalistes. Typiquement, l'éditorial de Béatrice Delvaux ou de n'importe quel autre journaliste est relu parfois par une dizaine de personnes. Et alors, évidemment, on regarde le fond, mais on se demande aussi s'il n'y a pas un penchant vers un côté ou vers un autre. Alors, non pas que les journalistes soient engagés, mais il peut y avoir un penchant naturel auquel on ne serait pas attentif. Et comme chef de pôle pouvoir qui a la politique dans son escarcelle, je veille évidemment, moi aussi, à ce que nos journalistes soient parfaitement équilibrés sur l'échiquier et qu'on ne critique pas tout le temps le même parti, qu'on n'encense personne de manière dithyrambique. Et surtout, c'est très important aussi pour nous, qu'on varie les interlocuteurs et les interlocutrices, qu'on n'interroge pas à 5 PS d'affilée ou 7 MR, quoi. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous aussi. Et je crois que la meilleure crédibilité d'un média, c'est d'être équilibré sur le plan des opinions qui y sont répercutées.
Et ce que dit Bernard est important parce qu'on ne juge pas un projet éditorial d'un média sur un jour, mais sur la durée aussi. Parce que forcément, en un jour, on peut interroger des gens plus à gauche et le lendemain, des gens plus à droite. Mais comme le dit Bernard, on fait très attention à ça. Et en outre, on a évidemment des valeurs. Ce n'est pas parce qu'on essaye d'être indépendant qu'on est incolore, inodore et insipide. Je pense même au contraire. Mais par contre, on doit être transparent sur ces valeurs. Donc on a décidé de les écrire, de les réécrire tous ensemble à la rédaction, avec la Société des journalistes, avec Béatrice Delvaux, avec moi. Et on a publié ces valeurs et sur le web et dans le papier.
Est-ce qu'on pourrait à l'avenir proposer un comparatif, une explication des programmes des différents partis? Joao de Hucle trouve en tout cas que c'est ça qui permettrait aux électeurs de voter en toute connaissance de cause.
Alors on le fait, mais on le fait de manière sélective, d'abord de manière obligatoire. Parce que si vous prenez par exemple le programme du PS, je suis allé voir avant de faire ce podcast, il compte 1220 pages. Donc il y aurait un côté technique et physique impossible de faire ça. Imaginez que ce soit le cas pour les 6 partis, ce serait tout à fait énorme. Mais par contre, on a décidé de le faire de manière sélective, c'est-à-dire qu'on a développé un outil qui permet de positionner chaque parti sur une question précise et fermée. On l'a déjà fait sur la taxe des millionnaires, par exemple, on l'a déjà fait sur le nucléaire, et je pense, Bernard, qu'à partir du mois de mai, dans la dernière ligne droite de la campagne, on va le faire de manière plus quotidienne, en fait.
Exactement. Donc, à partir du 10 mai, on lance quotidiennement des pages que nous, on appelle ici en interne thématiques. Mais ça veut dire qu'on prend chaque fois un sujet. Donc, comme Christophe le dit, on ne peut pas aborder tout un programme. Mais on prend, en partant du citoyen, une question qu'il se pose. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de généralistes dans ma commune? Pourquoi est-ce qu'on... certains partis veulent enfermer les enfants dans le cadre de la demande d'asile. Pourquoi est-ce qu'on veut limiter la vitesse sur les autoroutes? Donc on prend vraiment une question que tout le monde se pose et on fait parler les gens d'abord sur leurs problématiques et comment ils la ressentent, mais on fait aussi parler les politiques et on regarde les programmes. Dans ces pages thématiques, il y aura chaque fois une comparaison, comme notre lecteur le souhaite, une comparaison de tous les programmes, mais sur cette question précise qui concerne les gens. Donc on ne veut pas être académique.
Et puis il y a encore un autre élément, un autre outil qu'on vient de développer. C'est le STEM test, en néerlandais dans le texte, donc le test électoral, où on a travaillé avec l'ULB, le CEVIPOL, le centre d'études de l'ULB, et Pascal Deluit, en particulier, que je remercie ici, qui, en fait, à travers 31 questions, permettent à nos internautes de savoir la proximité qu'ils ont par rapport aux différents partis. Donc forcément, ce n'est pas « vous devez voter pour ça » ou « vous êtes encarté là », mais ça donne une idée, ça correspond aussi à la question de Joao, en fait, de travailler sur les programmes des partis, puisque ces questions ont été faites à partir des programmes des partis.
Et on précise évidemment que cet appareil pour poser des questions est toujours ouvert. Vous pouvez toujours poser vos questions sur lesoir.be/pourquoi. François de Hautigny, lui, se demande pourquoi est-ce que Le Soir critique autant le gouvernement, et il se demande si cela ne risque pas d'alimenter le rejet du politique.
Je pense que notre mission première de ce qu'on appelle parfois le quatrième pouvoir, c'est quand même de contrôler les gens qui sont aux manettes, qui sont au pouvoir. Donc c'est vrai que notre première mission, c'est de vérifier que la gestion est bonne dans un pays, qu'elle est faite de manière efficace, professionnelle, qu'il n'y a pas de corruption et que les ministres font leur travail comme l'électeur et l'électrice attendent qu'ils le fassent. Donc c'est clairement un aspect critique. Alors, il faut dire que certains gouvernements nous donnent plus de fil à retordre que d'autres. Je prends typiquement la Vivaldi qui est au pouvoir au fédéral pour l'instant. C'est une coalition avec énormément de difficultés. Les membres eux-mêmes de cette coalition, comme Georges-Louis Boucher, pour prendre un exemple récent, la critique de l'intérieur. Donc, finalement, nous, on assiste comme journalistes à ces pugilats. On ne peut évidemment pas rester sans nous-mêmes les critiquer, se demander comment c'est possible qu'on se lance des noms d'oiseaux sur la place publique alors qu'on est censé gérer et aussi gérer en évitant la montée de l'extrême droite. Alors là où on peut entendre quand même notre lecteur, et peut-être que ça c'est une piste d'amélioration pour Le Soir comme pour plein de journaux d'ailleurs, c'est pouvoir mieux souligner ce qui fonctionne bien. Donc on nous le reproche parfois, quand une bonne décision est prise, de pouvoir le souligner, tiens, ce ministre ou cette ministre a pris une bonne décision, ne s'est pas limité à critiquer ses collègues, mais cette fois-ci a été performant ou performante.
En fait, on est souvent face à deux critiques contradictoires. On nous reproche d'être vendu au pouvoir, d'être trop gentil, d'être dans le système, d'être le système. Et en même temps, on nous dit, vous êtes trop critique par rapport au gouvernement. Tout est une question d'équilibre. Je pense en effet, comme Bernard, qu'on est là pour porter la plume dans la plaie quand c'est nécessaire, mais qu'on ne doit pas non plus avoir un côté destructeur qui peut faire monter le populisme. Mais voilà, comme l'a dit Bernard, la Vivaldi, avec sept partis au pouvoir, au fédéral, avec des programmes très différents, à un moment, on a dû aussi constater des blocages. Et ces blocages ont parfois été très loin de ce qu'attendaient les citoyens. Je pense qu'une majorité de Belges attendaient une réforme fiscale et que le gouvernement n'a pas été capable de la faire, pour donner un exemple. C'est notre rôle, nous, de dire à un moment, ces blocages, ils sont trop souvent dus à de la politique politicienne entre les partis et pas assez par rapport aux aspirations des citoyens.
Encore une question sur nos pratiques. Yves de Fosse-la-Ville voudrait savoir pourquoi est-ce qu'on n'efface pas les interventions des trolls, des commentaires déplacés, parfois haineux, sur notre page Facebook.
Alors d'abord, merci à Yves parce que c'est une très bonne question et je peux vous assurer, Yves, qu'on en efface beaucoup, 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 beaucoup. Alors ça va être un peu technique, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. D'abord, il y a deux types de commentaires, c'est-à-dire ceux qui sont faits sur notre site, en dessous des articles, sur lesquels on a une plus grande mainmise. D'abord parce qu'on a dû, on a décidé il y a un an ou deux, de réserver ces commentaires à nos abonnés. Parce que l'anonymat faisait en sorte que des gens se permettaient trop souvent d'être en dehors de règles et pouvaient très vite pourrir une conversation sur les commentaires. Il suffit qu'il y ait une ou deux personnes dans un groupe des éléments très minoritaires mais très actifs pour en fait détériorer la qualité du débat. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que sur Facebook, évidemment, c'est ouvert à tout le monde, que les commentaires sont en dessous des liens qu'on fait vers nos articles et qu'il y a des milliers de commentaires, en fait. Et donc, comme l'ensemble des médias francophones, on est aidé par un prestataire extérieur qui nous aide à modérer cela. Et la première modération, elle se fait par l'intelligence artificielle, en tout cas par des algorithmes, c'est-à-dire qu'on efface des mots, je vais en prendre un pour être très clair, comme nazi ou nazisme par exemple, mais on constate que les trolls, comme le dit notre internaute, qui effectivement souvent peuvent essayer de déstabiliser la démocratie, se développent aussi, sont malheureusement aussi de plus en plus intelligents, et que souvent c'est des commentaires qui sont négatifs ou qui sont destructeurs, mais qui n'enfreignent pas forcément les règles parce qu'ils ne sont pas injurieux et parce qu'ils peuvent parfois passer comme des opinions et que c'est la limite entre l'opinion et le délit. Donc ce travail est très compliqué à faire pour nous. Donc ce qu'on doit faire, et c'est parfois pour moi nécessaire et en même temps un échec, c'est qu'on ferme parfois les commentaires sur certains sujets. Au début de la guerre entre Israël et le Hamas, en fait, la qualité du débat n'était plus respectée, donc j'ai dû, par exemple, prendre la décision de couper ces commentaires.
Pour terminer, une question de Philippe de Châtelet, question qui porte sur les débats que l'on organise avec les présidents de parti. Paul Magnette, le président du PS, a d'abord refusé de participer au débat et puis il a marqué son accord. Pourquoi ce revirement? Et Philippe de Châtelet se demande aussi si Paul Magnette ne serait pas favorisé avec la dernière place dans le calendrier.
Mais en fait, effectivement, donc, notre lecteur a raison. Dans un premier temps, quand on a lancé l'idée d'organiser des rencontres entre les présidents de parti et nos lecteurs et lectrices, Paul Magnette a refusé. Donc c'était un peu confus au début puisqu'on a d'abord une première excuse qui était un problème d'agenda. Et puis après, en creusant un peu, parce qu'on s'est un peu interrogé, on était étonné, sachant que tous les autres présidents acceptaient, Paul Magnette a invoqué, et c'est parfaitement son droit, le fait que c'était des panels uniquement masculins, puisque comme on le sait en Belgique, à l'exception de la coprésidente Raja Mawan, en Belgique francophone, tous les présidents de parti sont des hommes. Il a dit « je suis mal à l'aise avec ça, donc je refuse ». Bon, dans un premier temps, on a tout à fait compris, on a respecté. Et puis, certains de nos journalistes ont rencontré Paul Magnette à diverses occasions et lui ont demandé « tiens, mais vous ne voudriez quand même pas venir, c'est comme ça que ça s'est passé ». Et Paul Magnette, finalement, est revenu sur sa décision après que nous ayons lancé la promotion et que les premières soirées, les 5 premières soirées étaient organisées. Et puis, effectivement, Paul Magnette se trouve en dernier, mais là, je veux rassurer complètement le lecteur, c'est pas Paul Magnette qui s'est d'autorité placé à cet endroit, ni nous qui l'avons placé là pour lui faire plaisir, c'est qu'il avait d'abord une première date disponible, mais hélas, comme on avait déjà 5 soirées bookées, cette date n'était pas, n'était plus disponible pour des raisons d'organisation interne. Il ne restait qu'une date tout à la fin qu'il a choisi, et donc évidemment que nous n'avons pas refusé, parce que nous sommes très heureux d'avoir les 6 présidents de parti. Je précise aussi que c'est pas parce qu'il est le dernier qu'on va être gentil avec lui, et donc je veux dire, ça reste une interview journalistique avec de la contradiction, de la remise en question, du fact-checking, donc le but n'est évidemment pas de lui dérouler le tapis rouge à lui comme à personne, mais de faire une interview comme on en fait tous les jours dans le soir. Donc voilà, effectivement il sera le dernier, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a une intention ni de sa part ni de la nôtre de le favoriser.
Oui, et pour nous, c'est quand même un élément important. Hein. C'est dans toute la stratégie éditoriale qu'on développe, et on le développe clairement pendant cette campagne électorale, c'est de mettre le citoyen au centre de nos pensées et d'essayer d'interagir le maximum avec nos lecteurs. Donc Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef, est allée frapper aux portes en différents endroits à Bruxelles et en Wallonie. Elle est en train de le faire en Flandre. On a aussi lancé, évidemment, relancé l'opération Pourquoi, en demandant à nos obodés de nous poser des questions. Et ensuite, comme l'a dit Bernard, ces soirées, à la fois elles sont journalistiques et donc on pose des questions avec notre déontologie de journaliste, mais on l'a co-créé avec des lecteurs qui nous posent des questions et qui viennent directement les poser aux politiques. Ça me paraît extrêmement important. J'en profite, Pierre, si vous le voulez bien, pour dire encore une fois qu'on peut encore s'inscrire à ces soirées, en tout cas clairement pour M. Nollet, M. Prévost, M. De Smet et donc M. Magnet.
Sur bonsoir.lesoir.be. Merci beaucoup Bernard.
Merci Pierre.
Merci Christophe.
Merci Pierre.
Ils ont entre 18 et 30 ans, bientôt diplômés, ils s'apprêtent à faire leur entrée dans la vie active. Le Soir a voulu mettre un coup de projecteur sur les aspirations, les questionnements, les espoirs d'une génération. Comment envisagent-ils le travail, le logement, la mobilité? On va répondre à ces questions pendant cette semaine. Aujourd'hui, on s'intéresse au logement. La colocation a de plus en plus de succès auprès des jeunes, mais est-ce un choix ou une nécessité? Pour répondre à cette question, Charline Halleux a rencontré plusieurs colocataires.
Ah, mais il est plus là. Il y avait non, j'ai mis dans ma partie parce que c'était à moi en fait.
Ils sont 6 à vivre ensemble dans cette maison au cœur de Bruxelles.
Daniel, 32 ans.
Julie, 27 ans.
Robin, 27 ans.
Raïs, 30 ans.
Anna, 27 ans.
Dani, 38 ans.
Ça fait bientôt 2 ans que cette cohabitation a commencé. Et pour ces jeunes travailleurs, la colocation, c'est un choix.
On est tous dans ce truc où, ok, oui, on a un salaire et tout, mais on n'a pas envie de dépenser autant d'argent dans un loyer, dans un logement individuel en fait. Parce que c'est vraiment cher. Et à côté de ça, si je peux parler pour moi, j'envisageais pas du tout d'habiter tout seul en fait. J'avais pas envie d'habiter tout seul.
C'est marrant parce qu'on en a parlé hier, si on se voyait vivre seul ou pas.
Ouais.
Et on se disait qu'on n'était pas prêt à quitter la coloc.
Moi, pour ma part, la seule année où j'ai vécu seul, c'est parce que je croyais avoir l'envie de prendre mon indépendance, comme on dit, hein, la formule consacrée. Et je me suis dit, bah oui, je vais enfin vivre comme il se doit, c'est-à-dire seul, chez soi. La colocation, c'est fini, c'est un truc de jeune. Et puis finalement, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Parce que je me retrouve tout seul quand je rentre du boulot, parce que j'ai personne à qui parler de ma journée. Et donc, oui, en fait, la colocation, c'est pas juste un truc pour les jeunes, c'est une manière de vivre, de rencontrer des gens, d'être avec des gens, avec une nouvelle famille qu'on choisit.
Moi, je suis en couple depuis bientôt 3 ans. D'autres couples, quand je compare avec mes amis et tout, ils pourraient déjà emménager ensemble ou quoi que ce soit, mais nous, on est tous les deux dans une coloc et ça nous convient pour l'instant. Et je pense que ça m'angoisse aussi un peu d'emménager avec mon copain, parce que c'est quand même un big step. Et je crois vraiment que ça me manquerait, cette vie sociale. Ouais, mais aujourd'hui, je suis pas prête pour ça, quoi.
Pour moi, qui est aussi dans un couple, je voudrais bien redéménager et vivre avec ma copine, habiter ensemble, dans un appart, mais dans une grande maison où il y a des différents apparts avec tous mes potes. Mmh. C'est ça l'idée. Yeah.
Des projets de vie en communauté, on en retrouve de plus en plus. Juliette Grosjean et Amaury Mikkels travaillent chez Ecohab, une entreprise qui s'est lancée dans du co-living.
Le co-living, c'est l'habitat partagé qualitatif. On offre toute une série de services. On a le service de maintenance, s'ils ont moins de problèmes dans la maison. On a un service de ticketing où ils peuvent créer des tickets. Et on a aussi un service de nettoyage. Et puis, ils arrivent vivent simplement avec leurs valises dans des maisons qui sont entièrement meublées, où ils peuvent aussi profiter par exemple d'espaces de coworking, où parfois on aménage aussi des petites salles de sport. Ça dépend en fonction des maisons.
En gros, c'est de la colocation revisitée, quoi. C'est la colocation 2.0. Donc quelqu'un débarque dans notre maison, en gros, il vient avec sa valise, son laptop, et il emménage en 2 secondes, quoi. Et alors, il y a 2 parties qui sont importantes. C'est la partie communauté, donc faire en sorte que les gens de la communauté se connaissent, se rencontrent et, on va dire, la stimuler. Et la partie service. Et donc, on offre un service qui est adapté à la clientèle qu'on touche. Alors, iCoab, on l'a lancé en 2016. À l'époque, en fait, on se rendait compte qu'il y avait toute une série de jeunes actifs qui finissaient l'UNIF, qui avaient du pouvoir d'achat et qui n'avaient pas forcément envie de vivre dans une coloc d'étudiants, en fait. Et à l'époque, dans le marché, on retrouvait vraiment de la colocation, mais qui n'avaient jamais vraiment un projet, ou en tout cas très peu. Le parti pris, c'est ce qu'on s'est dit. En fait, ces jeunes, ils n'ont pas envie de vivre dans un appartement tout seul, ils n'ont pas envie de vivre dans un studio tout seul, mais ils ont du pouvoir d'achat, ils aimeraient bien vivre en communauté, mais dans des maisons qui sont quand même un peu plus sympas que ce qu'il y a sur le marché pour le moment. Et donc, on a développé ce type de modèle. On a démarré à Bruxelles, je dirais les 2-3 premières années, on s'est vraiment concentré que sur Bruxelles. Et du coup, ici, on est dans une phase où on est actif à Bruxelles, Charleroi, Liège, Mons, Arlon, La Louvière, et on est en train d'ouvrir Verviers, Tournai et Namur.
Ça, c'est 1 kilo ?
Ouais.
Ouais, je crois que ça va aller. C'est pour 4.
On est 4. Hein.
On est 4, ouais.
Pour moi, c'est une deuxième famille, vu que je suis loin de ma famille.
Moi, c'est très bien.
Oui, donc la vie sociale m'intéresse beaucoup. Je suis quelqu'un de très sociable. Aussi, c'est moins cher, mais ça, c'était une raison secondaire plutôt.
C'est des amis, mais qui nous connaissent plus intimement.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'ils nous connaissent au quotidien, ils nous voient en pyjama, ils nous voient aller aux toilettes.
C'est quand même particulier. Parce que j'habite pas avec des potes à la base, j'habite pas avec ma famille, j'habite pas avec mon partenaire romantique. Et donc c'est vraiment, au début vous étiez des étrangers, des inconnus,
oui,
et maintenant vous êtes des potes, mais aussi
la famille, c'est un mélange.
Des colocataires, ouais. On habite ensemble, c'est ça que nous, c'est notre lien.
Ouais. Oui, c'est ça, c'est vraiment une catégorie à part.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je suis d'accord.
Si beaucoup choisissent la colocation, pour d'autres, pas le choix. Vivre seul coûte de plus en plus cher. Le loyer moyen d'un appartement à Bruxelles s'élève à 1200 euros par mois. L'OCDE parle même d'une crise aiguë du logement à Bruxelles.
Alors je pense que maintenant, tous les acteurs confondus du co-living à Bruxelles, il doit y avoir plus ou moins 4000 chambres. Honnêtement, on pourrait avoir le double. Je pense que tout le monde louerait ses chambres. Donc il y a vraiment une explosion du modèle. Je crois qu'il y a eu plusieurs événements majeurs qui ont fait que le co-living a cartonné. Il y avait déjà, cette base qui était vraiment notre génération. On fait partie de générations qui sont un peu moins stables que nos parents. On ne sait pas si l'année prochaine, on ne va pas nous envoyer dans un autre pays ou on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc on a besoin d'un modèle de logement ultra flexible où c'est super simple d'emménager, de sortir, etc. Et puis, il y a eu des accélérateurs. Le premier accélérateur, c'était le Covid. Après le Covid, même ceux qui vivaient dans les appartements, très bien, tu vis dans un appart tout seul, t'as pas de jardin, t'as pas de terrasse. Donc ça a été vraiment déjà le premier accélérateur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui osaient pas franchir le pas en se disant « Ouais, mais en fait, ça reste de la coloc, j'ai pas envie de tchic-tchac. » Et ça, après le Covid, on s'est rendu compte qu'on avait un nombre de demandes impressionnant de personnes qui venaient des apparts et des studios, qui avaient complètement changé de mentalité en se disant waouh, si ça se reproduit, il faut vraiment qu'on soit dans un co-living. Et après, le deuxième élément, en fait, c'est ce qui s'est passé en 2022, l'explosion des coûts de l'énergie et des coûts de la vie, en fait, tout simplement, de manière générale. On a d'abord eu des locataires au tout début qui viennent pour le concept. Après le Covid, on a eu des personnes qui, de base, ne seraient peut-être pas venues pour le concept, mais ils sont venus, ont accroché, ont adoré, sont restés. Mais des personnes qui avaient du pouvoir d'achat, qui pouvaient très bien vivre tout seul. Et maintenant, on tombe dans une phase où, en fait, surtout à Bruxelles, c'est devenu tellement cher qu'on tombe de plus en plus sur des cibles qui viennent en disant, bien évidemment, la coloc est moins chère, mais ça nous intéresse pas vraiment. Mais, en fait, le coût de la vie est tellement élevé que maintenant, ils viennent aussi pour des raisons économiques. Ce qu'on n'avait pas, en fait, au début.
La raison, au tout début, quand j'ai voulu aller en coloc avec des inconnus, la raison c'était rencontrer des nouvelles personnes.
Pour des personnes qui sont récemment déménagées à Bruxelles, qui n'ont pas des amis ici, c'est une solution très facile pour rencontrer des gens.
Et la compagnie, je trouve que ça fait du bien, justement. Si par exemple je broie du noir ou quoi, moi j'ai besoin de gens à qui parler et tout, ça me fait sortir de ma bulle. Et puis le fait tout le temps croiser du monde, du coup, t'es là, hop, tu sors de ta tête et d'un coup la vie va bien.
Là, ce qui est cool, c'est qu'on a des profils super différents. Et donc c'est hyper intéressant d'apprendre à connaître des personnes avec qui on traîne pas forcément au quotidien.
À fond.
Et c'est super enrichissant aussi.
Ouais, je suis d'accord. Différents pays, différentes cultures.
Et on apprend aussi beaucoup sur soi.
Choisir la vie en communauté sur du long terme, c'est un peu casser les codes de la société. Certains ne comprennent pas toujours ce mode de vie.
Moi, je vois pas du tout comme une transition. Et pour l'avenir, c'est hyper dur de se projeter, mais à terme, je m'imagine clairement pas reproduire le schéma classique couple, maison, chien, voiture, enfant. Si j'ai ça, j'aimerais bien que ce soit genre au sein d'une communauté, quoi. À terme, je crois que j'aurais besoin d'appartenir à une communauté et que le projet de cette communauté soit vivre ensemble.
Est-ce que c'est une transition? Ça veut dire qu'on a déjà un plan préétabli et que c'est une étape, on va dire, intermédiaire, peut-être, on va dire, par défaut ou en attendant d'eux, alors que c'est pas comme ça qu'on
le vit et qu'on le voit. C'est comme ça que nos parents le
voient. Ah ben oui, mais c'est comme ça que notre...
Et puis se rendre compte qu'on a 27 ans.
Nos parents le pensent.
T'as encore un colloque
T'as pas encore d'enfant.
T'as pas encore d'enfant.
C'est ça.
Je crois qu'ils comprennent à moitié et ils sont là, ok, j'ai fait sa vie finalement.
Principalement, ce sont des personnes entre 23 et 35 ans. C'est rare des personnes de 18 ans qui viennent dans nos maisons, c'est un peu plus âgé. Et puis après, c'est juste que oui, la petite quarantaine, et à partir de 40, là, on a une autre maison qu'on vient d'ouvrir à Charleroi où c'est les plus de 40.
Maintenant, on a commencé à développer un projet de co-living pour les 45-70. Les logements sont encore plus beaux. Donc là, c'est des chambres qui font minimum 40 mètres carrés. On a fait une maison avec piscine. Niveau service, on va aussi plus loin. Donc là, la femme des ménages repasse le linge des personnes, change leur drap de lit, etc. Et alors là, maintenant, on est en train d'attaquer un tout nouveau marché qui, à mon sens, va être le plus gros marché dans les années à venir, c'est les 70+. Où là, on va devoir avoir en fait un service qui est vraiment complètement différent de celui qu'on offre.
Ah oui, Robin, j'ai pris le demi-paquet qu'il y avait dans ton appart.
La colocation représente 58% des logements des 18 à 30 ans, mais ce mode de vie s'étend de plus en plus à d'autres tranches de la population. Le retour à la vie en communauté semble presque devenir un idéal de plus en plus convoité.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Dans la perspective des élections, Le Soir organise des rencontres débats entre des présidents de parti et des abonnés. Si vous avez envie de participer, il suffit de vous inscrire sur le site bonsoir.lesoir.be. En vous inscrivant, vous aurez aussi la possibilité de poser votre question. Merci pour votre écoute et à demain.